Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent Olivier Canton. Salut Olivier.
Salut Raph, comment tu vas? Écoute, moi je suis ravi de te retrouver une nouvelle fois pour ce podcast à retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes et vous n'hésitez pas à la fin de chaque écoute à noter le podcast et ce sera encore une émission de grande qualité, j'en doute pas avec toi Raph, n'est-ce pas?
Oui, notre homme a représenté pendant une bonne quinzaine d'années le gladiateur des temps modernes. Comme beaucoup, il a joué avec une armure et je ne parle pas de celle portée avec le maillot de Givors, de Bourgoin, de Castres, du Stade français et même cette armure bleue sous les couleurs de l'équipe de France. Non, je parle de cette armure invisible qui protège, qui donne le change et qui cache une vulnérabilité difficilement assumable dans notre cher sport et notre chère société. Une armure de super-héros comme une cape qui nous rend tout puissant et qui cache et protège l'enfant en chacun de nous. Pascal Papé, c'est 65 sélections avec l'équipe de France, c'est un bouclier. Et une Challenge Cup avec le Stade français, c'est deux grands chelems et deux six nations et une finale de Coupe du Monde en 2011. Directeur du centre de formation du Stade français depuis 2017, il vient d'être nommé directeur sportif de Bourgoin, comme un espèce de retour aux sources. Au-delà de sa magnifique carrière, si j'ai voulu inviter Pascal, c'est aussi parce que son histoire peut résonner en chacun de nous. Je parle de cette génération d'hommes qui a peut-être subi un jour le poids de son passé, des maux portés et tus, parce que dans notre cher monde, les failles, la dépression, la vulnérabilité sont tabous et montrent la part de faiblesse qu'on a tous et toutes en chacun et chacune de nous. Et je ne cesserai de le répéter, mais un homme, c'est avant tout un être capable de faire de son passé une force. Et pour cela, il se doit d'être accompagné aussi par des témoignages comme celui de Pascal, ça s'appelle la résilience. Mes forces de joueur viennent de mes faiblesses d'homme. En une phrase, il a réussi à résumer combien il est important de comprendre que derrière chaque performance, il y a des sources de motivation propres à chacun et parfois ces forces proviennent de cicatrices enfouies bien profondément. Donc, je suis ravi de pouvoir parler à l'homme derrière l'immense joueur que tu as été. Donc, salut Pascal.
Salut Raphaël, bonjour à tous.
Ouais, ravi de te retrouver Pascal. Écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu as été responsable de la formation des espoirs du Stade français. Tu viens d'annoncer ton départ, nommé directeur sportif de Bourgoin, comme j'expliquais, au 1er juillet avec Sébastien Thiouzbord, qui sera le nouveau manager. Donc, tu es directeur sportif de Bourgoin. Pourquoi ce choix? C'est un peu un parcours un peu, je dirais, naturel de prendre un centre de formation et puis avant d'arriver vers le très très haut niveau, on va dire top 14 qu'on souhaite dans quelques années, c'était un passage nécessaire de passer par Bourgoin, ce retour aux sources.
Passage nécessaire, je sais pas, mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'était en tout cas un choix du cœur, un choix du ventre. Comme tu l'as dit, voilà, ça fait 4 ans que je suis au centre de formation, directeur du centre de formation. Je me suis régalé. Je me régale encore aujourd'hui avec ces jeunes parce qu'encore une fois, je pense que j'ai une fibre particulière pour les accompagner, en tout cas, dans leur développement d'hommes, mais aussi de jeunes rugbyman. Mais comme tu l'as très bien dit, je voulais aussi donner un autre tournant à ma carrière. Et le développement et la structuration d'un club m'a toujours intéressé. Et là, en plus, ça tombe bien parce que le CSBJ avait besoin d'avoir, en tout cas, de créer ce poste-là. Et tu connais mon rapport avec ce club. C'est un club qui a toujours coulé vraiment dans mes veines et que j'ai toujours gardé en tête, hein, malgré mon départ du CSBJ il y a 15 ans. Donc oui, c'est un retour aux sources. Mais surtout, c'est un projet ambitieux avec des gens qui ont des convictions qui me ressemblent, en tout cas dans lesquelles je me retrouve. Voilà, donc c'est un super projet dans lequel je veux m'investir à 100%. Et puis après, pour la suite, on verra. Voilà, il y a une grosse ambition du côté du CSBJ maintenant. À moi de la porter du mieux possible.
Pascal, Bourgoin, vous l'avez quitté, vous l'avez dit, il y a une quinzaine d'années maintenant. Ça n'a plus rien à voir avec ce que vous aviez connu comme joueur. Vous étiez joueur emblématique de la grande époque de Bourgoin avec les Chabal, les Nallet, les Bonner. Ça n'a évidemment plus rien à voir 15 ans plus tard.
Non, ça n'a plus rien à voir, mais vous savez, il y a cet esprit de la Berjali qui est toujours là. qui a animé, qui anime encore le club. Et maintenant, l'idée, ça sera aussi de pouvoir se baser sur cet esprit-là qui est particulier. Vous savez, Bourgoin, au même titre que le Stade français, c'est un club à part, avec des couleurs à part, avec une ADN bien particulière. Et je crois que ça sera la base de notre travail, voilà, de pouvoir rassembler tous les gens qui sont dans ce club ou qui sont autour du club dans ce projet-là. Et comme tu l'as très bien dit, il y a des anciens qui ont eu un passé glorieux dans ce club. L'idée, c'est aussi de pouvoir les reconnecter autour du projet ambitieux du CSBJ.
Et quels sont les objectifs aujourd'hui? C'est retrouver la Pro D2. On rappelle que le CSBJ a fini 8e cette saison de nationale. On remarque aussi ce qui, alors c'est pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui fonctionne bien aussi dans les clubs de top 14 aujourd'hui, c'est un peu, j'aime bien le mot retour aux sources, mais on le voit à Toulouse, ça cartonne quand même pas mal avec beaucoup d'anciens
Bien sûr.
qui reviennent, au Stade français aussi, tu es resté, il y a Rémi Bonfils, Julien Arias, Sampere et Thomas Lombard qui est d'ailleurs directeur général. Est-ce qu'au CSBJ, il y a possibilité justement de rameuter un peu les troupes de ces anciens? Je
Bien
pense à
sûr.
Olivier Millot aussi, tu vois, qui est,
Bien
voilà,
sûr.
tous ces mecs-là qui sont emblématiques et qui peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice, au-delà d'être supporters dans les tribunes, parce que les tribunes vont se remplir. Mais voilà, est-ce que certains joueurs pourront retrouver aussi une place au sein du club?
Bien sûr, c'est l'objectif clairement affiché du président, c'est de pouvoir aussi voilà, renouer un petit peu avec ces gens qui ont fait l'histoire du club. Je crois qu'on a tous voilà, du potentiel et on a tous quelque chose qu'on pourrait amener dans ce club. Hein, et puis bizarrement, voilà, ce club, c'est ce qui nous rassemble tous, les anciens. L'idée, c'est de pouvoir reconnecter tout le monde, qu'on fasse pas, qu'on n'accumule pas forcément les potentiels ou les ressources, mais plutôt qu'on les associe. Voilà. Et je crois qu'en plus, bah, tous les Berjaliens voilà, qui sont aussi tous dans la région ont tous bien réussi leur reconversion. L'idée aussi, c'est de pouvoir en profiter, de profiter de leurs conseils. Voilà, je pense qu'un retour, en tout cas, de ces gens-là, ça serait en tout cas une super opportunité pour le développement du club. Et en tout cas, sur le peu que j'ai pu, avec qui j'ai pu échanger depuis quelques semaines, évidemment, eux, c'est avec un grand plaisir et presque, ils attendaient ça vraiment avec impatience. Voilà.
Mais est-ce que dans ce rugby professionnel d'aujourd'hui, Bourgoin a encore sa place?
Alors, encore une fois, il faudra aussi, je vais reprendre le discours du président Henri-Guillaume Guédan. Il a jamais dit dans la presse, ou en tout cas, il a jamais affiché le fait que Bourgoin retrouve le top 14. Non, ça, je crois que c'est quelqu'un, voilà, qui a rebâti le club depuis 3 ans, pierre après pierre, qui lui a redonné une sérénité vraiment financière. Et il le fait avec beaucoup de patience. L'idée, c'est de retrouver le monde professionnel, ça c'est clair. Voilà. Et le monde professionnel, déjà, c'est la Pro D2. Donc ça sera la première étape. La retrouver le plus vite possible, évidemment. Donc on a 2 ans pour continuer le travail qui a été entrepris avant, pour essayer voilà, de retrouver ce monde de la Pro D2. Après, encore une fois, il faut, voilà, faut être patient, faut construire, faut développer. Faut donner toutes ses forces pour que ce club soit pérennisé après en Pro D2, parce que je pense que le CSBJ et son territoire, parce qu'il y a un vrai territoire autour de Bourgoin, il y a la place pour être en Pro D2. Maintenant, voilà, c'est un travail sur le long terme qui va devoir être fait par tout un club, par toute une région, par tout un territoire. Mais en tout cas, c'est clairement l'objectif, c'est de retrouver le monde professionnel.
Vous avez un calendrier? Vous avez un calendrier précis sur c'est l'année prochaine, c'est dans 2 ans, dans 3 ans?
Voilà, le calendrier, ça sera, encore une fois, ça sera, on veut le retrouver assez vite. Voilà, on va pas se mettre la pression d'un calendrier. Encore une fois, on veut bien travailler pour se donner la possibilité de le faire le plus vite possible. Voilà, mais encore une fois, il n'y aura pas de pression de se dire on va monter en fin de saison. Non, je crois qu'il faut être aussi objectif, relatif. Il faut déjà bien travailler, se donner les moyens. Il y a pas mal de choses à reconstruire avant. Donc, voilà, on veut remonter, dans le monde professionnel le plus vite possible. Maintenant, ça ne sera pas n'importe comment.
Et tu l'as dit justement, il y a eu des problèmes financiers à Bourgoin. On imagine que le club s'est assaini, comme tu l'expliquais ces dernières années. Comment arriver aujourd'hui à créer une économie viable pour atteindre le haut niveau et rester dans une région comme celle de Bourgoin, parce que c'est, enfin, je, tu vois, je pense aussi à Biarritz, je pense à tous ces clubs qui sont descendus en Pro D2 et aussi en National. Il y a eu certes une mauvaise gestion, mais aussi il y a toute l'économie locale qu'il faut arriver à créer. Donc on le sait, c'est par les supporters, c'est aussi par les petits sponsors qui accumulés peuvent permettre d'avoir une économie viable. Mais c'est vrai qu'il faut aussi redorer le blason du CSBJ, c'est bien sûr ton rôle. Mais comment on peut arriver, toi qui connais bien la région à Bourgoin, comment on peut arriver à pérenniser cette situation
Tu sais, Raph, je le disais tout à l'heure en préambule, l'idée, c'est d'emmener tout le monde avec nous dans notre projet et via cet esprit de la Berjali, donc qui est un esprit particulier, je le répète, mais
c'est quoi l'esprit de la Berjali?
L'esprit de la Berjali, c'est que ben justement, c'est l'esprit de ce club qui est à part. Voilà, quand tu regardes l'histoire de Bourgoin, c'est un esprit qui est particulier, qui est très territorial, qui a des valeurs, voilà, des valeurs que moi j'apprécie. Hein, c'est des valeurs voilà, de la terre quelque part. Mmh. Et c'est vrai que tout le monde se retrouve dans ces couleurs aussi ciel et grenat, hein, qui sont particulières, tu sais. Dans l'esprit aussi de la Berjali, il y a ce stade, Pierre Rajon, qui a fait peau neuve, je ne sais pas si vous avez vu, mais qui a déjà une nouvelle tribune, qui va en avoir une deuxième dans 2 ans, avec des espaces d'hospitalité. Enfin bref, le club est vraiment en train, pour répondre à la question de Raphaël, le club est vraiment en train de se développer, aujourd'hui, il y a des actifs qui appartiennent au club et je crois que ça, c'est hyper important. Encore une fois, ça, c'est tout le travail qui a été construit par la gouvernance et Henri Guillaume Guédon, le président. Et après, voilà, c'est réunir tout le monde dans cette ambition, que ce soit les supporters, les partenaires, les institutions. Voilà, tout le monde doit participer à notre projet avec cet esprit de la Berjali. Et encore une fois, et c'est une chose qui est importante qu'il faut savoir, vous savez que Bourgoin, porte à porte avec Lyon, c'est 25 minutes. Donc aujourd'hui, en fait, on a un vrai territoire dans le Nord-Isère, mais on est très proche aussi de Lyon. Et on sait que à Lyon, bah, c'est une ville qui a une forte économie. Et je peux vous rassurer que dans la région, eh ben, Bourgoin est encore, le CSBJ est encore populaire. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on surfe avec nos anciens sur cette popularité qui vont nous aider à porter cette ambition, cette nouvelle ambition sportive pour le club.
Et le centre de formation, qui est dans le centre de formation, certes au Stade français. Donc il y a toute la formation, parce que c'est aussi, et le Rhône quand même est quand même une région de rugby. Il y a Lyon.
C'est un club formateur depuis toujours. Tu sais, il y a un chiffre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors c'est plus le cas aujourd'hui parce que Toulouse avance bien. Mais il y a 3 ou 4 ans, le CSBJ avait fourni autant de joueurs à l'équipe de France que le Stade toulousain. D'accord. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que le Stade Toulousain continue à fournir énormément. Mais ça veut dire que ce club-là est un vrai club formateur et que on doit aujourd'hui le redevenir. D'accord. Donc ça va passer par des projets en interne au niveau de la formation, mais aussi sur le développement de la structure. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont en construction pour le centre de formation au CSBJ qui sont énormes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à terme avoir une école, avoir des logements et tout ça dans le site de Pierre Rajon. Donc si tu veux, le club a amorcé en tout cas le développement de certains projets, mais qui sont vraiment fixés sur le centre de formation parce qu'on veut vraiment redonner à l'intérieur du club et de la région une place forte à notre formation.
Comment fidéliser aujourd'hui un jeune qui aspire à jouer en top 14, en pro D2, tu le sais bien, à Paris c'est déjà en top 14, mais voilà, le Bourgoin qui est en national, comment arriver à expliquer à des jeunes aujourd'hui, c'est une autre mentalité que celle que l'on a vécue il y a quelques années, la mentalité, et on en parlera justement à la fin de l'émission, de l'évolution des mentalités et des jeunes, comment arriver à fidéliser les jeunes de la Berjali, à dire voilà, rester sur ce projet à court, moyen et surtout à long terme, pour pouvoir avoir des joueurs issus de la formation sur le terrain en pro D2 d'ici, comme tu le disais, 2, 3, 4 ans, le plus tôt possible.
Bien sûr, déjà, ça passe par la construction de l'environnement du jeune et de ce qu'on va lui proposer dans son double projet. Voilà, je crois que c'est une évidence. Après, évidemment, vous connaissez la région là-bas, vous avez vu, il y a Oyo, il y a Grenoble, il y a Clermont, il y a Le Loup, il y a Bourg-en-Bresse maintenant qui va rejoindre la Pro D2 la saison prochaine. Il y a énormément de concurrence, mais aujourd'hui, on a un bassin qui est énorme. S'il y a autant de clubs, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Maintenant, nous, c'est notre boulot avec la formation, ça sera d'être le plus précis sur l'environnement du jeune et lui montrer qu'en tout cas, ses débuts et sa formation, il faudra qu'il la fasse chez nous parce que nous, on sera peut-être plus précis qu'ailleurs, d'accord? Et on lui donnera peut-être un peu plus de moyens pour qu'il se développe jusqu'à après, bah, pourquoi? Et oui, évidemment, peut-être qu'il partira un jour dans un grand club, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir le former de ses 14 ans, d'accord? Jusqu'aux 18, 19, 20 ans, peut-être qu'il jouera même en Pro D2 et après, peut-être, on verra. C'est le but. Mais encore une fois, l'idée, c'est voilà, il faut pas qu'ils partent à 14-15 ans, les gamins, parce que c'est trop tôt. Et je crois que c'est là le sens aussi de notre mission au CSBJ, c'est de leur proposer quelque chose qui leur donnera pas envie de bouger et d'aller déjà à 100 km de chez les parents. Parce qu'encore une fois, voilà, on connaît aussi l'importance un petit peu de l'éducation de nos proches que l'on peut avoir quand on est jeune. Nous, l'idée, c'est vraiment de ne pas couper ça. C'est d'être un supplément, en tout cas, à leur éducation. Et puis, je répète, c'est vraiment, encore une fois, Raph, c'est l'environnement qu'on va proposer à ces joueurs-là. Voilà, il faut qu'ils soient précis et il faut qu'ils soient pas comme ailleurs. Voilà, il faut qu'on, en tout cas, c'est l'objectif du club.
Je voudrais qu'on parle du Stade français. Bon, on sent que vous avez bien potassé les dossiers. Là, vous avez déjà la tête à Bourgoin. Mais je voudrais qu'on parle du Stade français, de l'équipe première. Comment vous la trouvez, cette équipe, quand même? Votre regard sur la
bien.
Performance de cette fin de saison, le Stade français qui va jouer sa qualification ce week-end, hein, ce qui est incroyable d'ailleurs.
Bien sûr, moi, écoute, c'est bien. Avec l'équipe qu'on a, quelque part, c'est pas, je suis pas surpris. On a quand on regarde le papier de l'équipe du Stade français, on doit être dans les six premiers. Hein. Vous avez vu cette ligne de trois quarts. On a un pack franchement qui est très costaud. Aujourd'hui, on avait vraiment la possibilité de rentrer dans les six premiers. Bon, la saison a fait qu'on n'y a pas été toute la saison dans ces six premiers. Mais aujourd'hui, le fait est qu'on peut rentrer dans ces six premiers si on gagne à Bayonne. Ouais, moi, je ne suis pas surpris parce qu'encore une fois, l'effectif qui compose notre équipe première, il est quand même très, très beau. Hein. Moi, je suis content qu'on puisse jouer la qualif quand même qu'on joue la qualif ce week-end. Mais je suis pas surpris parce que franchement, il y a une très belle équipe.
Ouais, et puis tu as vu, enfin, je voulais t'en parler. 14 ans au Stade français, on quitte pas ce club comme ça, mais qu'on y ait joué 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Alors que retenir? Est-ce que c'est le titre 2015? Est-ce que c'est les galères qu'il y a eu? Ouais. Tu le sais, tu as connu la période de Charletti, tu as connu le départ de Max, tu as connu la fusion, tu as connu le passage aussi, qui est un échec phénoménal d'Heineke Meyer. D'ailleurs, et c'est là aussi où. On n'est pas surpris du travail de Gonzalo Quesada que tu as eu en tant que manager, parce que il a quand même récupéré une équipe qui était mal en point, qui était en manque de confiance. Comment tu as vécu justement toute cette évolution, ces 14 années, quand tu arrives à Paris, justement, débarquant, et c'est pas du tout péjoratif, parce que je viens d'un petit village de 700 pélos, tu vois, je suis arrivé à Paris, mais bon, Bourgoin, Castres, Gibor à la base, comment tu es arrivé à Paris? Comment tu as vécu toutes ces années, si tu retiens justement, tu sais pas, Comment t'as vécu ton pari, toi, débarquant de ta petite campagne, comme moi et comme beaucoup aussi?
Écoute, moi, au bout de 15 jours, je me suis dit, mais pourquoi je suis pas venu là avant, en fait? Tout simplement. Donc, pour te dire, hein, et pourtant, je débarquais j'avais fait une saison à Castres, donc, et aussi quand même une belle ville de province. Donc, et j'appréhendais vraiment mon arrivée à Paris. Au bout de 15 jours, quand j'ai vu déjà l'état d'esprit, et l'esprit qui était véhiculé dans ce club, qui est hyper familial en fait, et qui doit rester familial, parce que c'est vraiment la force de ce club, je me suis dit, mais putain, mais c'est énorme. Et j'ai retrouvé vraiment des similitudes avec le club de Bourgoin, avec lesquels nous, on était très proches, on a grandi dans ce club, etc. Et là, le fait d'arriver au Stade français, vraiment, je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, l'image que pouvait avoir ce club, hein, d'un club un peu... paillettes, bling bling, la capitale, etc. En fait, pas du tout, parce que la première chose qu'on retrouve dans ce club, c'est ses valeurs, en fait. C'est ses valeurs d'amitié, de bienveillance, de compétition, de gagneur. Et en fait, je me suis retrouvé très vite dans ce club. Et au bout de 15 jours, je me suis dit, mais putain, quel bon choix, quoi. Quel bon choix, parce que j'arrivais à assembler la partie plaisir, de faire partie d'un projet, et la partie compétition, parce que ce club a toujours joué les phases finales, en tout cas jusqu'à l'époque de Charletti. Et après, voilà, je me suis construit, hein, parce que je suis arrivé à 26 ans, je me suis construit voilà, en tant qu'homme aussi dans ce club. J'ai vécu d'énormes galères, vraiment, mais des énormes galères où il y a eu finalement qui n'ont pas servi à rien, en fait. Les années noires de Charletti, où le stade Jean-Moi était en train de se refaire, La vente, de Max parce qu'on n'avait pas le choix, l'arrivée de Thomas Savard. Enfin, on a vécu les choses dures, mais où l'investissement qu'on a donné pendant ces années un petit peu, eh ben, il a payé à un moment donné, notamment avec ce titre de 2015, où vraiment, ben, en fait, c'était finalement un retour sur l'investissement des mecs de ce groupe, et c'était les mêmes. Et à ce moment-là, on y avait intégré déjà des très jeunes, hein, comme Danti, comme Plisson, comme Flancard, comme Camara. Et voilà, et au final, le fait de ne pas s'être lâché, de tout savoir re-signer à un moment donné dans ce club, parce que ben, on y appartenait, on s'y sentait bien, et on avait envie de défendre ses couleurs, et ben, ça a payé avec ce titre en 2015. Ça a payé avec la Challenge Cup en 2017. Voilà, cette génération finalement qui était voilà, qui a été cabossée quelque part, et eh ben elle a été aussi à un moment donné sacrée, parce que justement on a courbé les chines, on n'a rien dit, on est resté dans le bateau, et puis voilà, le soleil est arrivé, on a réussi à ramener un 14e titre au club et une première Coupe d'Europe au club.
Mais quand on fait le bilan, quand même, hein, c'est effrayant, hein, toutes ces aventures, ces mésaventures connues avec le Stade français.
Mais tu sais, le Stade français, c'est un club qui n'est pas comme les autres. Voilà. Quand tu viens dans ce club, tu sais qu'il va se passer des choses. Voilà. C'est simple, il se passe des choses. Tous les ans, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est comme ça. Ça fait partie de l'ADN du club. Ça fait partie de sa vie. C'est comme ça. Mais en tout cas, il y a tellement de passion autour de ce club et dans ce club qu'il s'y passe des choses. Qu'il s'y passe des choses. Et donc, forcément, bah, on a toujours vécu un petit peu comme ça. La fusion, je vais revenir dessus, mais la fusion, c'était une époque, c'était un truc incroyable. On a vécu un truc incroyable. Et encore une fois, voilà la force de l'homme et des hommes qui composent ce club, parce que c'est pas un joueur qui s'est levé contre la fusion, c'est tout un club, à part un ou deux, voilà, joueurs, qui n'ont pas eu les couilles, comme on dit, de pouvoir lever la main contre la fusion. Mais encore une fois, ça, c'est juste une histoire de se dire on est capable de se regarder dans la glace ou pas après. Mais c'est un club. Moi, je me rappelle, à l'époque de la fusion, c'était incroyable. Bah, toutes les énergies déjà qu'on recevait de l'extérieur pour dire les gars, lâchez pas. Et puis toutes les énergies de l'intérieur, de l'administratif, de tout le monde. C'était vraiment. Ce club n'avait pas envie de mourir. Et c'est pour ça bah, que, heureusement, aujourd'hui, je le dis, heureusement qu'on a réussi à faire capoter la fusion, parce qu'aujourd'hui, la chance qu'on a dans le top 14, c'est d'avoir encore le Racing d'un côté et le Stade français. Et ça, pour nous, les joueurs, c'était, et puis pour les gens qui étaient au club, c'était pas possible que nous, on est voilà, le dernier maillot du Stade français. C'était pas possible de bouffer une histoire comme ça. Voilà.
Et c'est vrai que, enfin, moi, ce que je retiens aussi de ton parcours de joueur et surtout au Stade français, c'est en fait, on se rend compte que toute victoire passe par un moment et passe par des moments d'adversité, des moments compliqués, des moments durs. Moi, je me souviens en 2000, il y a eu cette autogestion, il y a eu l'affaire de Peter de Villiers en 2001. Il y a toujours ce club qui a toujours attiré un petit peu la lumière et tu as toujours eu des mecs. En fait, tu vois, je pense à moi, j'étais un peu trop jeune, mais tu vois, j'étais pas suiveur, mais j'étais leader dans la connerie, mais j'étais suiveur des leaders qui étaient Bibi Oradou, qui étaient Domi. Après, il y a eu toi, vous êtes formé aussi en tant qu'homme, toi. Il y a eu Serge
Sergio.
Pryssé, Pierrot, Rabadan, Jérôme Fiol. Donc, tu te formes avec des caractères, avec des mecs qui arrivent, comme tu le dis, à 26, toi, t'es arrivé à 26 ans, tu as pris la température du club, tu savais que tu avais encore au cul derrière les Domi et tout ça, et puis au fur et à mesure, tu te formes dans l'adversité de cette fusion de Charletti, de
Mais
tout ça qui t'amène
c'est de la
à.
transmission.
Ouais.
C'est de la transmission. Et encore une fois, moi, je remercie des gens comme Christophe Dominici, comme Bibi, comme Sylvain Marconnet, comme Peter, qui nous ont filé le flambeau, finalement. Tu vois? Et Mathieu Blin, je l'oublie aussi, mais voilà, c'est des gens qui nous ont. On a récupéré leur héritage, on a récupéré ce caractère. Et tu vois, ce qui fait la différence peut-être dans ce club, c'est que il y a toujours eu des gens qui ont du caractère, qui ont eu du caractère, un caractère fort. Je me rappelle, moi, en 2015, on s'est battu dans les vestiaires. Hein. On s'est battu certains dans les vestiaires parce qu'on était tellement passionnés, on avait tellement, on était tellement écorchés vifs par ce
Mais
club.
pourquoi? Pourquoi vous êtes battu?
Mais parce qu'il y avait de la passion, parce que voilà, je me rappelle, on avait perdu un derby à la maison, enfin battu, tu m'as bien compris. Hein. On s'était vraiment pris le bec, on s'était accroché, voilà, parce qu'encore une fois, c'était de la passion, et que ce jour-là, peut-être on avait été en faille par rapport à ce qu'on devait représenter avec ce maillot, surtout contre le Racing. Donc voilà, encore une fois, c'est un club qui te fait grandir en tant qu'homme. Et c'est un club, voilà, moi je, et justement, il faut que cet héritage il soit transmis encore par les anciens. Aujourd'hui, je pense qu'Antoine Burban doit être le relais de cette passion, de cet héritage-là pur du Stade français.
Et il est, et c'est vrai, juste pour conclure sur le, je dirais, sur le Stade français, il y a quand même un homme qu'on n'a pas cité, mais à qui il faut rendre hommage, c'est Max.
Bien sûr.
Comment t'es arrivé, toi?
Ah bah.
C'est pas par, l'intermédiaire du calendrier des dieux du stade, à
Non,
mon avis, que t'es arrivé, mais,
je te rassure.
mais comment t'es, justement, comment ça s'est passé, toi, ton arrivée, venant de Casse, le premier contact avec Max?
Bah, c'est simple, moi, Bibi partait au Racing, Mike James arrêtait sa carrière, donc Max avait vraiment besoin d'un deuxième ligne. L'opportunité s'est faite et naturellement, j'ai rejoint le stade. Là, je connaissais Max parce que c'est. Il venait voir souvent les matchs du 15 de France, donc j'avais eu l'occasion de discuter avec lui. Et ce personnage, pardon, me passionnait et m'intéressait et m'intriguait, quoi, parce que c'est une vraie figure, c'est un vrai bonhomme, Max. Et franchement, ça s'est fait naturellement après. Et après, j'ai toujours entretenu une super relation avec lui parce que, voilà, quand on parle de bienveillance, quand on parle de quelqu'un qui vous veut du bien, bah, je crois que Max, c'était ça en fait. Il voulait que ses joueurs se sentent bien dans son équipe pour qu'ils donnent le meilleur. En tout cas, moi, il me l'a toujours fait ressentir et vraiment, j'ai adoré ce président et je crois que c'est un président qui m'a marqué parce que, encore une fois, pas comme les autres. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il m'a amené quelque chose en tant qu'homme. Et puis, au-delà du président, ce personnage. Il est profond, il y a quelque chose. Moi, il m'a, voilà, j'adore Max. Si il nous écoute, je vais lui dire que je l'aime. Voilà.
Et puis vous aviez aussi un point commun, c'est que vous avez joué tous les deux deuxième ligne. Voilà. Enfin,
Ouais,
on le sait pas, on le sait peu.
ben moi,
Max a
je,
joué.
voilà. Alors, moi, je jouais à droite, lui, il devait jouer à gauche, hein, Max, hein, parce que ça devait pas être un gros pousseur. Hein.
Pascal, plus personnellement, comme je disais dans le portrait, tu as sorti. Alors, j'en ai pas parlé de l'autobiographie, mais je vais en parler maintenant. Ton autobiographie en 2016 s'appelait Le Double Jeu, qui revient sur ton enfance douloureuse, sur ta dépression en 2013, après une blessure, et puis aussi une tentative de suicide. Quel courage, en tout cas, moi, quelques années après. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ce rugby, sur ces failles? Voilà, elles sont bien souvent tues et il faut pas montrer ses faiblesses, comme je disais. Tu les as cachées le très 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 longtemps et c'est vrai que c'est. Alors moi je dirais double à la fois double jeu et c'est un espèce de dédoublement de personnalité pour
C'est
pouvoir
ça.
montrer qu'on est grand, qu'on est fort, qu'on est des héros, qu'on est des gladiateurs. Et puis quand le masque tombe, ben, comme il est tombé, le tien. Voilà, au bout du bout, il y a cette solitude malgré la multitude. Moi, je me souviens de ces passages difficiles aussi où tu rentres dans un terrain, tu as 10 000 personnes autour de toi, tu as tous tes potes, mais en fait, tu as un sentiment de solitude abyssale à l'intérieur que tu ne veux pas montrer. Et c'est vrai que tu as mis en fait en mots, mais comme Domi l'avait fait aussi différemment de par son parcours, tu as mis en mots des choses que beaucoup vivent. Alors, pas sur le côté, enfin sur ton parcours. On rappelle que voilà, tu as été adopté. C'est quand même hyper inspirant, hyper couillu, hyper courageux. Pour moi, il y a deux héros dans la vie. Il y a celui qu'on voit sur le terrain qui plaque 30 mecs, et il y a celui qui fait une fois le tour de lui-même. Et pour moi, celui-ci, il est inspirant, il est intéressant parce que. Parce qu'on en a besoin, parce qu'on a ras-le-bol aussi de toujours s'identifier à des gladiateurs qui gagnent des coupes et tout ça. Mais voilà, le héros du genre humain, c'est aussi celui qui se regarde en face et qui accepte ses failles et surtout qui en parle. Tu parlais de transmission, c'est essentiel, quoi.
Bah, c'est ça, en fait. Je crois que tu as dit un mot fort. Hein. À un moment donné, moi, je me suis même posé la question de ce fameux dédoublement de la personnalité parce que j'avais l'impression de vraiment jouer un rôle quelque part quand j'étais sur la partie terrain, hein, donc la partie rugby, donc on va dire 50% de ma vie. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. On ne forme pas finalement les jeunes aujourd'hui, et encore que on s'améliore. On s'améliore, je trouve quand même que par le biais de gens, encore une fois, en étant très humble, de gens comme moi ou des anciens qui ont vécu des choses douloureuses, on arrive à démocratiser tout ça et à ce que ça ne soit plus un tabou. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon époque, on ne formait pas les jeunes à être à avoir, enfin, on les incitait pas, en tout cas, à développer cette voilà, ou à parler de leurs failles. Et au final, tu sais très bien que sur un terrain de rugby, ben, ce qui compte, c'est le gladiateur, c'est un sport de combat où il y a de la testostérone sans arrêt, où on est sans arrêt dans l'affrontement et il n'y a pas de place à cette faille, en fait. Et que si cette faille, elle apparaît, ben, c'est vraiment dangereux pour le gladiateur et on est en difficulté. Donc moi, l'idée, c'était de toujours cacher ça parce que je savais et je pensais surtout. Et c'est là où c'est con, c'est que je pensais que à un moment donné, bah, ça allait me jouer les tours sur mes performances, sur moi, sur l'homme, et que tout mon rugby allait en décliner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, avec l'âge et avec justement cette blessure, qui est une blessure grave que j'ai eue au dos, et ben, ça m'a, voilà, tout d'un coup, comme tu dis, ben, le masque est tombé. En fait, tout, j'ai remis tout en question, au point même de plus se contrôler, de plus pouvoir se contrôler, de finalement de se dire, mais en fait, tu ne t'acceptes pas, en fait, tu as menti, tu t'es menti toute ta vie, tu ne t'acceptes, je ne me suis pas accepté, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et donc, et bah, quand ce masque il tombe, et ben, bah, t'es plus toi-même, il y a des choses qui arrivent, tu te contrôles plus, il y a la dépression qui arrive, il y a les cachets, il y a des choses qui font que, ben, bah, voilà, t'es plus vraiment dans ton corps, t'es même plus forcément dans ton esprit, en fait, tu te regardes d'en haut. Moi, je me rappelle, hein, j'avais des visions où je me regardais d'en haut et en fait, je contrôlais plus rien. Et c'est ça qui est terrible, c'est que en fait, tu remets tout en question et jusqu'au jour où tu te dis, bah, en fait, pourquoi j'existe? Tu vois? Pourquoi j'existe, en fait? En fait, tu mens, tu te mens, tu mens à tout le monde. Pourquoi? Enfin, tu remets en cause ton existence, vraiment. Et au final, dans ce mal-être, etc., la chose énorme qui m'est arrivée, c'est que finalement, tout ça, bah, d'un séjour dans un hôpital de repos, on va dire, où j'ai pu travailler sur moi, où j'ai vraiment pu me déconnecter de tout ça, quelque part, en fait, ça m'a fait réagir et je me suis dit, mais en fait, putain, mais qu'est-ce que tu branles, quoi, tu vois? Au contraire, ton histoire, elle est belle. Ton histoire, elle est belle. Tu as réussi des choses qui sont formidables. Il faut que tu en fasses profiter aux gens. Et en fait, dans cet hôpital voilà, cet HP où j'ai pu me reposer, bah, j'avais pas de téléphone, j'avais pas de télé. Voilà, c'est vraiment une maison où on peut se reposer. J'avais un stylo, des feuilles. Je me suis dit, bah, je vais écrire. Je vais écrire pour mes enfants. Je vais leur écrire mon histoire. Et je vais écrire tout ce que je ressens. Et en fait, je suis parti comme ça, j'ai noté plein de choses. Et quelque part, bah, ça a été une thérapie parce que j'ai mis des mots sur mes mots. Et en fait, ça m'a permis de les développer, en fait. Et je me suis dit, en fait, mais c'est beau, en fait, ce que j'ai fait, ce que tu as fait, ce que. Il faut que tu rendes. Et voilà, et je me suis dit, mais pourquoi je ne rends pas plus fier à mes parents, en fait? Parce que ça a été des gens qui ont été courageux, qui sont venus chercher un petit gars qui avait la rougeole, la jaunisse, qui n'avait pas de vaccin, qui était en train de crever, qui avait une appendicite, qui était en train de crever de faim, qui avait une hernie abdominale à force de gueuler parce que je mangeais pas. C'est eux qu'il faut mettre en lumière. Faut que je les remercie, ces gens-là. Il faut que je les, voilà, il faut, c'est, et en fait, tout est arrivé d'un coup où je me suis dit, mais c'était ton histoire, elle est fantastique. Et c'est grâce à cette histoire que t'es devenu, un super rugbyman, quoi. Et en fait, c'est pas l'homme et le rugbyman, c'est les deux. Et en fait, j'ai pris conscience de tout ça à 32 ans. Et je suis tellement content de l'avoir fait. Et tu vois, le regret que j'ai aujourd'hui, Raph, peut-être que je ne l'ai pas fait assez tôt parce que qu'est-ce que je me sens bien depuis, en fait. Et
Ouais,
c'est là, Raph, où c'est incroyable. Le monde du rugby, c'est des gladiateurs, c'est des combattants, c'est tout ce que tu veux. Voilà, on s'en met plein la gueule. Mais du jour où j'ai sorti mon livre, j'ai vu l'immense respect des gens du rugby, vraiment. Et j'ai jamais eu un mot plus haut que l'autre sur le terrain, sur cette partie-là. Et c'est là où on voit qu'on a un sport encore qui est vraiment sur des valeurs fortes, de bienveillance, de respect, de tout ça, quoi, tu vois? Parce que finalement, c'est ça qui me faisait peur aussi, de me dire, putain, si les mecs qui
jugement.
savent en face que, tu vois, le jugement, c'était terrible. Et en fait, non. Je crois qu'on a la chance d'appartenir à un milieu qui a des fortes valeurs. Et moi, je me bats tous les jours avec mes jeunes pour qu'on les garde, ces valeurs, parce qu'en fait, ça nous aide à nous construire, en fait.
Ouais, tu parlais de transmission. Je vais pas du tout comparer, en tout cas, ton parcours et le mien, parce que j'ai pas du tout le même passé, même si j'ai eu une faille dans l'enfance aussi qui a fait que. Mais à 33 ans, pareil, l'HP, ce moment de solitude où une fois de plus ma carrière est arrêtée depuis 8 ans, mais je vivais toujours dans la nostalgie des moments passés. Je comprenais pas un peu les failles que j'avais vécues, et puis à un moment d'accepter d'avoir le pied au fond, je dirais, le pied au fond de la piscine de. Ouais, tu peux pas t'accrocher à tes parents, tu peux pas t'accrocher à ta nana, puis c'est pas leur rôle en plus, donc à qui tu t'accroches. Et le fait d'avoir aussi rencontré, c'est pour ça que j'ai envie de parler d'accompagnement, rencontrer aussi des gens qui m'ont permis de m'éveiller, une fois de plus, indépendamment de toute la famille, des amis, des amours et tout ça, d'arriver à se regarder en face, d'arriver à accepter ses failles. Moi, c'est un peu le reproche d'ailleurs que j'ai fait au monde du rugby pendant des années. C'est qu'il y a un moment où alors j'avais fait ma formation de coach mental, mais j'étais incapable de coacher les gens. Mais je leur disais, mais allez-y, allez voir des psys, entourez-vous de coachs mentaux. Mais c'était pas encore incarné en moi. Aujourd'hui, ce discours que tu as, le discours que j'aimerais moi aussi porter dans les centres de formation, mais pas pour les jeunes, c'est pour ceux qui entourent les jeunes. C'est qu'à un moment, ouvrons le débat sur la psychologie dans le sport, ouvrons le débat sur le coaching mental. Pourquoi je parle de coaching mental? C'est de trouver sa motivation intrinsèque. C'est de la conscientiser. C'est de conscientiser toi ce que tu as vécu, de faire de ton passé une force qui aurait pu te permettre à 20 ans, 25 ans, en fait, d'être encore meilleur, mais au moins tu aurais conscientisé ces mots qui étaient plus des failles et d'en faire des forces. Donc voilà, moi je trouve ce débat, il est passionnant. On se le doit pour la génération future, mais aussi pour les coachs actuels, pour les managers, pour les
Bien sûr.
entraîneurs, de travailler autrement qu'avec couille, cœur, et
Bien
d'y
sûr.
mettre un petit peu de tête, de
Mais
commencer à éveiller un peu les esprits, quoi.
Raph, Pascal, ça change quand même. Ça change maintenant,
Oui,
non? Oui.
ça change, mais voilà, c'est lent. C'est moi, je trouve qu'on va pas assez vite. Et en fait, Raph, il a raison voilà, le couille et cœur, c'est bien, mais je crois que moi,
On n'est
j'ai
plus
toujours.
là-dessus, on n'est plus là-dessus quand même, un peu
Non,
moins.
on n'est plus là-dessus, mais on doit être encore plus sur l'humain. Voilà, moi, je. En fait, en tout cas, moi, j'ai eu en plus cette éducation-là et j'ai cette fibre où je pense que. Il faut s'intéresser à l'homme. Avant tout, il faut s'intéresser à ce gars que tu as à côté de toi, qui travaille avec toi, qui joue avec toi, qui sait en fait. Tu vois, il y a plein de choses à mettre en place. Et puis surtout aussi, et Raphaël a complètement raison, ça va faire partie de la performance maintenant. Et ces gens-là, ces tierces personnes qui pourraient nous aider en tant que rugbyman à nous donner des clés, finalement. Quoi qu'il arrive, moi c'est pour ça que je dis pourquoi je ne l'ai pas fait avant, parce que finalement ça m'a rendu meilleur après. Meilleur dans ma façon de fonctionner. Du coup, j'étais plus calme, j'avais pris de la hauteur sur plein de choses. Et en fait, c'est ça, c'est est-ce que si j'avais été un petit peu plus accompagné sur cette partie un peu perso où justement on apprend et surtout voilà, on prend conscience de qui on est et on l'accepte. Voilà, parce qu'on sait que ça va nous servir pour être un meilleur rugbyman, et bien peut-être que j'aurais encore été meilleur, et c'est là où je rejoins Raph, c'est que maintenant, dans l'environnement du jeune, on recherche tout pour que le jeune soit meilleur, sur la partie pédagogique, sur la partie environnementale, etc. Et ça en fait partie, et c'est pour ça que moi, je suis hyper ouvert à cet aspect mental, psychologique du jeune, qui est en plus en pleine construction. Donc c'est-à-dire qu'en plus, lui, il a sur la tête... Il rentre dans un entonnoir pour le haut niveau, mais il sait pas s'il va y arriver. Mais il y a les études, enfin, tu vois, il y a plein de choses. Donc, il faut se construire. Et je crois qu'il faut les aider de plus en plus sur cette partie-là, parce que c'est des jeunes mecs ou des jeunes femmes, hein, parce qu'attention, les centres de formation sont bientôt mixtes. Donc, ouais, il faut en tout cas les aider à se construire. Au-delà du sport, il y a l'homme, il y a l'humain, et je crois que c'est le plus important.
Justement, on va parler juste 2 secondes des réseaux sociaux avant de conclure. Tu as montré ton GSM, ton téléphone,
Mon GSM,
ton GSM. Tu imagines bien que moi en Picardie et toi, commençant le rugby aussi à Bourgoin, en tout cas à Givors, voilà, on était à des années-lumière de cet aspect aussi maintenant, de l'être et du paraître. Tu vois aussi, parce qu'il y a beaucoup de paraître aussi dans ce. Dans ce petit objet, justement. Hey, comment on forme, comment on sensibilise quand on est manager, voilà, à cette nouvelle approche, sachant que T'es pas le premier à être sur les réseaux sociaux, Pascal, on le sait, on le voit, mais comment on forme? Parce qu'il faut aussi accepter, il faut pas trop limiter, mais il faut qu'ils vivent aussi avec. Il y a cette image aussi derrière. Je sais que c'est Fort Success qui est une boîte qui s'occupe de Mathieu Bastaro et d'autres joueurs qui sensibilise aussi, qui va dans les clubs pour parler un petit peu justement de l'approche des réseaux sociaux. Comment on le vit en tant que manager de avec cette nouvelle génération?
Tu sais, c'est particulier parce que quand tu rentres dans une pièce avant un match de tes jeunes, allez, à 1h30 du coup d'envoi, et que tu rentres dans la salle de vie et que ils sont tous sur leur GSM, comme tu dis, dans la même pièce et qu'ils se parlent pas, mais par contre, ils sont tous en train de jouer au même jeu en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, je crois qu'il n'y a pas de comparaison à faire avec notre génération à nous.
Bien sûr.
Je crois que c'est ce qu'on appelle la génération Z. C'est une génération que j'aime, moi, mais qui est très égocentrique, si tu veux, sur le fait qu'il faut savoir se vendre, il faut savoir se montrer, il faut savoir, tu vois, sur les réseaux, etc. Mais encore une fois, moi, ça ne me dérange pas parce que ça fait partie de leur éducation et qu'aujourd'hui, le monde, il est fait comme ça. La grosse connerie, ça serait de leur dire, écoutez les gars, maintenant quand vous venez au stade, vos téléphones, ils restent chez vous, j'en ai rien à voir. Je crois que là, on n'y arrivera pas. En revanche, par contre, ces jeunes-là, aujourd'hui, moi, je m'aperçois qu'ils sont hyper intéressants parce que c'est des jeunes qui sont sans arrêt dans l'info. Toute la journée, ils traitent de l'info sur les téléphones. Voilà, ils ont une multitude d'infos qui passent dans leur tête et qui passent via les réseaux. Le but, c'est de prioriser les infos que nous, on va leur donner, en fait. Parce que c'est celles-là qui vont être importantes pour leur développement. D'accord? Et donc, c'est de trouver, finalement, un process avec eux en leur disant, voilà, toutes les infos que nous, on va vous donner, dans votre somme d'infos que vous avez toute la journée avec vos téléphones, etc., il faut que celles-là, elles deviennent prioritaires et il faut que vous puissiez trouver un moyen de l'enregistrer. Parce que ils en ont tellement des infos que parfois, eh ben, ils les traitent pas, tu vois, celui-là. Donc, c'est ça. Et après, et comment tu le fais? Et ben il faut le décider avec eux. C'est des jeunes, la génération d'aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont hyper intéressants parce qu'ils veulent participer. Tous les projets que tu vas monter avec eux, il faut qu'ils soient partagés avec ces gamins-là. Parce qu'en fait, ils s'en rendent pas compte, c'est couillon, mais ils sont hyper intéressants dans la démarche aussi et dans leur réflexion.
Ouais, donc ça veut dire arriver et pour conclure sur cet aspect-là aussi, c'est d'arriver aussi à faire le deuil du joueur que tu as été pour passer de l'autre côté, parce que sinon inconsciemment tu as envie de coacher les mecs comme tu as été coaché.
Et puis Raph, encore une fois, on a été coaché d'une certaine manière, mais c'est plus la bonne aujourd'hui.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que moi je m'intéresse à, tu vois, au management intergénérationnel. C'est ça qui est génial. Parce que demain, tu as un mec de 35 et un mec de 18, c'est pas les mêmes, tu vois ce que je veux dire.
Je dirais l'avantage à Bourgoin, c'est un peu comme à Beauvais, c'est que c'est encore en Edge et c'est les téléphones avec le Snake, donc tu n'auras pas ce souci-là là-bas, quoi.
Alors tu es
Je chambre.
De très, très mauvais état d'esprit parce que je te signale que la 5G est arrivée à Bourgoin. Voilà.
Je chambre. Pascal, j'ai une dernière question pour toi et voilà, pour terminer sur revenir juste sur ta carrière, quel serait ton meilleur souvenir?
Franchement, tu sais, Raph, de sortir un truc comme ça, c'est super dur. Je crois que c'est plutôt de manière philosophique, c'est vraiment tout l'enrichissement auprès des hommes et auprès des hommes que j'ai pu côtoyer, tout ce que le rugby via ces hommes m'a apporté pour me construire, tout, voilà. Tu sais, t'as dit plein de choses. La finale de la Coupe du Monde, la fusion avortée, deux grands chelems. Aujourd'hui, je mesure l'importance que c'est de faire deux grands chelems parce qu'on n'y arrive plus. Tout ça, en fait, ça a été des aventures. Tout ce qui rassemble tout ce que j'ai vécu, en fait, c'est l'aventure humaine, en fait. Et tu vois, de la fusion qui a été une aventure incroyable humaine à la finale de la Coupe du Monde, à cette finale de challenge après, alors qu'on avait, on savait qu'on n'avait plus de propriétaire dans 15 jours. Enfin, tu vois, ça a toujours été animé par des vraies aventures humaines avec des vraies valeurs. Et en fait, c'est ça que je retiendrai, c'est que dans ce sport, on s'emmerde pas. Et c'est pour ça que les mamans, si elles nous écoutent, il faut mettre vos enfants dans les écoles de rugby parce que vraiment, ça nous aide à nous construire. Et surtout, je crois qu'on arrive à véhiculer des valeurs qui sont belles. Et je crois que toi, Raph, tu en es aussi l'exemple. Et on a besoin, en tout cas avec le temps qui arrive, hein, avec cette période de crise, Je crois qu'on a besoin d'avoir des gens qui sont un peu plus portés sur l'humain, sur la bienveillance, sur plein de belles choses, quoi.
Bah, c'était le but, en tout cas, de ce podcast, tu vois, c'était de pas faire des petits trucs en 2, 3, 4 minutes, mais d'avoir la possibilité et de se donner un petit peu le temps, parce que le temps, on l'a, d'échanger justement sur des sujets qui, grâce à toi, grâce à Domi, grâce à ceux qui ont pris la parole avant, ils sont de moins en moins tabous et qui permettent de montrer que la faille est une force et que la vulnérabilité est une force et que c'est important d'en parler. Parce que comme tu dis, la nouvelle génération, elle est curieuse, elle a envie de savoir et elle en a peut-être un petit peu ras-le-bol et elle s'est peut-être rendue compte que les dieux du stade, c'était de notre temps et c'est plus de leur temps. En tout cas, aujourd'hui, Pascal, merci beaucoup. Olivier, merci beaucoup.
Merci. Merci de l'invitation.
Ouais, c'était vraiment, vraiment hyper, hyper intéressant. On te souhaite en tout cas une bonne fin de saison avec le Stade français, et puis un futur glorieux le plus tôt possible avec Bourgoin. C'était vraiment un plaisir de t'avoir, Pascal, et je connaissais le joueur et un peu plus encore l'homme aujourd'hui. Et je pense que, en tout cas, ceux qui écouteront ce podcast, une fois de plus, seront inspirés. Et c'est le but de Poulain Rafut. Oui. Ça rafute peut-être un peu moins, mais voilà.
Un podcast à retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes, hein, je le rappelle, hein, Raph, et que vous n'hésitez pas à noter, vous avez été extrêmement bavard, messieurs.
Ouais, mais en tout cas, on s'est régalé. Merci beaucoup, Pascal. À très bientôt.
Merci, à bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.